VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La situation des droits de l'homme au Soudan du Sud est parmi les plus horribles dans le monde. C'est indigné aujourd'hui l'ONU. Les Nations Unies signalent dans un rapport que des combattants alliés au gouvernement avaient été autorisés à violer les femmes en guise de salaire. Il s'agit d'une situation des droits de l'homme parmi les plus horribles dans le monde, avec une utilisation massive du viol comme instrument de terreur et comme arme de guerre, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU au droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Au Burundi, top départ pour les travaux de la commission Vérité et Réconciliation. Elle s'est entretenue avec les étudiants des universités publiques et privées de Bujumbura et Ngozi. Mais pour l'opposition burundaise, cette commission est tout sauf indépendante. On écoute Charles Nditije, le président de l'UPRONA, parti politique non reconnu par les autorités de Bujumbura.
Pour nous, c'est un non-événement dans un pays meurtri par des crises à connotation génocidaire. Il y a un pilier extrêmement important, c'est celui de la justice. Cette loi a complètement occulté la dimension judiciaire. Il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sociale si cette dimension justice n'est pas présente dans ce mécanisme. C'est plutôt pour nous un moyen d'occulter la vérité, parce que les gens ne diront pas la vérité dès lors qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la justice de réparation par rapport au forfait. Au Burundi, il y a des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont inamnistiables et imprescriptibles.
Le Charles Nditije, président de l'UPRONA. Au Congo-Brazzaville, 5 candidats de l'opposition, Pascal Sati Mbiala, André Okombi Salissa, Guy Patrice Parfait Kolela, Claudine Mounari et Jean-Marie Michel Mokoko ont créé leur propre commission électorale dénommée Commission technique des élections, la CTE. Jean-Baptiste Mobutu Bemba est leur porte-parole. Il explique les objectifs de cette commission.
Cela signifie tout simplement que nous aurons, nous aussi, à collecter les résultats après le vote, qu'une fois qu'il y a eu le décompte des votes dans les bureaux de vote, il y a les procès-verbaux qui sont automatiquement affichés à chaque bureau de vote. C'est une disposition législative qui a un caractère impératif. Si nous avons mis en place cette commission technique électorale, c'est pour que le vote des Congolais ne soit pas volé. C'est le contrepoids de la CNEI que nous ne reconnaissons pas, parce que nous savons bien les dérives de cette institution qui est un instrument formaté pour les besoins de la cause du pouvoir actuel.
Le porte-parole de l'opposition au Congo-Brazzaville. Au Kenya, les groupes terroristes Al-Shabaab et État islamique continuent d'attirer en leur sein des jeunes musulmans, mais la résistance s'installe. Une organisation a lancé un programme de déradicalisation visant les jeunes qui en ont été affectés, aussi bien que la formation des imams. Jacques Aristide.
Ranada Noula s'entretient avec deux jeunes hommes radicalisés par l'extrémisme. Son rôle est de les extirper de ce piège, car justement, Ola est le directeur du programme Renforcer la résilience face à l'extrémisme violent, Brave en sigle en anglais. Le programme a atteint 2000 jeunes Kenyans. Certains le suivent sur décision judiciaire, d'autres de leur propre chef. Les imams en bénéficient également. Ils ont droit à 4 jours de formation pour mieux les aider à contrecarrer le message des radicaux. L'une des annonces du programme a attiré l'attention à l'échelle nationale.
En Somalie, les terroristes tuent les musulmans. Au Kenya, ils cherchent à tuer des non-musulmans pour créer l'animosité entre les religions. Mandera, 22 décembre 2015, des Kenyans musulmans ont protégé des Kenyans face aux attaques des extrémistes. Ces braves Kenyans ont sauvé des vies. Ils ont protégé leurs voisins.
La mosquée Riada se trouve à Pumwani, à la périphérie de Nairobi. En 2013, un rapport de l'ONU a lié l'un de ses responsables avec le financement du terrorisme. L'imam Aizadine Omar est attaché à cette mosquée depuis 5 ans maintenant. Le programme Brave l'aide à repérer ceux faisant montre de penchants extrémistes.
Pour que ces jeunes acceptent d'être déradicalisés, cela prend du temps et il faut le faire étape par étape.
La tâche est difficile pour ceux qui sont radicalisés à l'extrême, mais par la grâce d'Allah, nous y parvenons au bout du compte.
Abdul Mwangi est l'un de ces jeunes appelés par des prédicateurs radicaux à se lancer dans le djihad, la guerre sainte. Une idée qu'il répugne aujourd'hui après avoir passé par le programme Brave.
On nous a fait comprendre le vrai message des extrémistes. Ce que je peux dire à mon nom et au nom d'autres jeunes comme moi est que si vous me citez quelque chose du Coran, oui, je vais l'accepter. Mais si, ce faisant, vous me demandez de faire quelque chose, j'irai moi-même voir ce que le Coran dit ou les hadiths ou d'autres livres qui sont cités.
Jusqu'à présent, Brave a formé environ 150 religieux et imams, mais beaucoup de meurtres à l'écart par crainte de représailles. Pour des observateurs, les causes profondes comme le chômage doivent également être prises en compte.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Mali, les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ont fait état jeudi d'avancées significatives vers la mise en place d'administrations transitoires dans le nord du pays, et cela à l'issue de la 7e session du comité de suivi de l'accord. Ces administrations intérimaires dans 5 régions administratives du nord du Mali, composées de représentants de l'État, de groupes armés pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion, pour gérer pendant une période transitoire de 6 mois les collectivités locales. L'opposant Amadou, écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, va finalement participer au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars au Niger. Face au président sortant, Mamadou Issoufou a annoncé jeudi, l'un de ses avocats à l'AFP, la coalition de l'opposition COPA, très critique sur le premier tour de l'élection présidentielle, avait déclaré mardi qu'elle avait décidé de suspendre sa participation au processus électoral en cours avant le second tour prévu le 20 mars. Des élections présidentielles et législatives doivent être organisées en Syrie sous l'égide de l'ONU dans les 18 mois à compter du 14 mars, a annoncé aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura. À l'ordre du jour des discussions destinées à mettre fin au conflit en Syrie prévu à Genève du 14 au 24 mars, il y aura 3 questions. Un nouveau gouvernement inclusif, une nouvelle constitution et de nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans les 18 mois à compter du début des négociations, c'est-à-dire du 14 de ce mois, a-t-il déclaré dans une interview à l'agence de presse russe RIA Novosti. Pendant ce temps, la guerre en Syrie va entrer dans sa 6e année. La révolte dans le pays contre le régime de Bachar al-Assad, qui a commencé le 15 mars 2011, s'est muée en une véritable guerre dévastatrice. Michel Joseph.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, a comptabilisé 271 138 morts. Parmi eux figurent 79 106 civils, dont 13 500 enfants et 8 760 femmes, un bilan donné le 23 février 2016. Celui-ci n'inclut pas les milliers de disparus dont on ignore le sort, opposants dans les geôles du régime et membres des forces loyalistes capturés par les rebelles et les groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique. Dans un rapport publié en février, des enquêteurs de l'ONU ont affirmé que des milliers de personnes détenues par les différentes parties ont perdu la vie, accusant le régime de Damas d'extermination de prisonniers. Selon une organisation humanitaire syrienne, 177 hôpitaux ont été détruits et près de 700 membres du personnel de santé tués depuis 2011. L'ONG française Handicap International, s'alarmant notamment des ravages des armes explosives, a fait état d'un million de blessés.
Merci Michel. Les 4 candidats républicains à la Maison-Blanche ont laissé les insultes à la porte lors d'un débat inhabituel hier, s'astreignant à rester sur le fond de sujets aussi graves que le conflit israélo-palestinien ou la réforme de retraite. Donald Trump avait promis de bien se comporter et a tenu parole, apparemment désireux de projeter une image plus présidentielle. Il n'a pas interrompu ses rivaux de la soirée et débattu calmement d'une voix posée et presque basse, négligeant même de répliquer à certaines attaques. Jean-Roger Billon, le prochain journal vous sera présenté par Henri Francis. C'est dans 50 minutes. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.